L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur les ondes de Radio Larzac. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une petite heure, comme d'habitude, pour décortiquer l'actualité locale. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et commencent les rendez-vous hors normes qui vont marquer la vie culturelle de Millau et de ses alentours jusqu'au 20 mai. Hors normes pour décrire l'art singulier, l'art brut, qui sont les protagonistes de ces événements. Et la grille de Radio Larzac, bien sûr, sera en bonne partie consacrée à ces rendez-vous. Aujourd'hui, on commence à vous annoncer un peu le programme, mais aussi on essaye de définir l'art brut en compagnie de Philippe Flau, de la compagnie éphémère. Et on le fera aussi en compagnie des élèves de la classe terminale en section humanité, littérature et philosophie du lycée Jeanne d'Arc, qui ont préparé un micro-trottoir sur ces sujets. En fin d'émission, vous retrouvez la chronique cinéma de Souria, juste avant une interview avec Pepe Dell'Acqua, un psychiatre italien qui a œuvré pour la reconnaissance des malades psychiatriques avec Franco Basaglia, qui est concepteur de la loi qui a interdit les asiles psychiatriques en Italie. Mais tout de suite, on va commencer avec nos invités et c'est parti pour l'actu sur un plateau. Et alors, je salue nos invités, Philippe Flau. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et aussi Marie Aelia, vous êtes donc élève à Jeanne d'Arc. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, on va justement commencer par votre micro-trottoir et je vous laisse le présenter.
Donc, on est des élèves de terminale générale au lycée Jeanne d'Arc à Millau. Nous faisons partie de la classe HLP, donc Humanité, Littérature, Philosophie, dans laquelle on parle de sujets variés tels que l'art ou la sensibilité, par exemple.
Dans le cadre de notre programme Art, Création, Continuité et Rupture et du festival Hors Normes qui débute ce jeudi, nous avons pu avoir la chance d'interroger de nombreux Millavois lors d'un micro-trottoir. Donc, petits et grands, amateurs et professionnels ont été interviewés sur le sujet de l'art et de la perception qu'ils en avaient.
Oui, ben merci déjà pour ces contenus et on va justement commencer avec un premier extrait de votre micro-trottoir qui répond à la question « Qu'est-ce que c'est que l'art ?»
Nous avons quelques questions à vous poser sur l'art dans le cadre du festival Hors Normes qui va bientôt se dérouler à Millau. Donc la première question, ça serait « Qu'est-ce que l'art pour vous ?»
L'art, ben, c'est une création.
Un moyen d'expression.
C'est un moyen de s'évader, de prendre du bon temps. Et c'est des choses qu'on peut voir un peu partout, sans forcément aller dans un musée ou dans des lieux dédiés.
Ça dépend de l'art, mais ça dépend des moments. Des fois, ça peut être un échappatoire, quelque chose qui peut nourrir aussi quand on en a besoin, quelque chose qui peut ouvrir l'esprit aussi. Quand on découvre de nouveaux artistes, ça peut être une source de lien aussi entre les gens.
L'art, c'est création, c'est du développement personnel, c'est une guérison aussi de l'être qui fait des tableaux, des peintures, et c'est la communication. C'est la communication.
D'accord.
De soi à l'autre.
C'est une passion d'abord pour les personnes qui le font, puis c'est le beau, des choses qui nous restent. Depuis très longtemps.
Qu'est-ce que l'art pour vous ?
Rien, ça ne m'intéresse pas du tout.
Qu'est-ce que l'art pour vous ?
Une ouverture sur l'imaginaire, sur la poésie et une manière de réenchanter mon enfance et mon adolescence. Aujourd'hui, ça manque. À Millau, oui, c'est un moment, une parenthèse un peu enchantée dans un monde assez violent, difficile, normatif, qui nous impose en permanence des injonctions, donc l'art c'est une manière un peu de mettre tout ça à la poubelle.
Mais déjà c'est important, ça fait partie de la vie. C'est...
L'art c'est une forme d'expression qui est à la portée de tout le monde.
Bah, l'art c'est des œuvres et des artistes, c'est avant tout une représentation du monde par l'artiste qui va exprimer son point de vue via différents moyens comme la peinture, la musique ou le cinéma.
Pour moi, l'art, c'est un moyen d'exprimer ses sentiments, de sortir ce qu'on a envie de dire, de lâcher par un autre moyen que la parole.
Côté scientifique, c'est un peu compliqué d'être sensible à l'art.
Alors, l'art, pour moi, représente une ouverture, une liberté et un moment d'émotion.
La musique ou plein d'autres choses.
Les sculptures, les tableaux et de la musique.
Alors, pour moi, je dirais que l'art est avant tout un moyen d'expression. Donc, qui fait appel à des qualités plastiques, hein, si on veut, qu'il s'agisse de sculpture, de peinture. En revanche, après l'art, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est aussi un moyen d'engagement, hein, c'est un médium, hein, c'est un moyen d'annoncer des idées, de faire part de ce que l'on pense.
L'art, c'est la chance de pouvoir voyager dans l'âme, dans l'esprit, dans mais tous les sens en éveil, j'ai envie de dire, hein.
L'art c'est personnel, l'art c'est propre à chacun. Ça peut être des choses comme la musique, ça peut être des choses comme les dessins, ça peut être gastronomique ou autre. Voilà.
Des tableaux.
C'est quelque chose que les gens créent, quelque chose fait d'une main, qui est joli, qui est là pour plaire.
Pour moi, je connais surtout la matière. Au collège, à l'école, l'art plastique. Et après, je sais qu'il y a d'autres sortes, comme la peinture, la sculpture. Et
je sais, par exemple, on peut faire des tableaux dans des musées ou toutes sortes d'art, par exemple des sculptures. On peut aussi faire des écritures en art.
C'est pour s'exprimer et soi-même. C'est une espèce de fouloir et catharsis pour l'artiste.
Donc voilà, c'était le premier extrait de ce micro-trottoir, donc on entend une grande variété des réponses que vous avez eues.
Oui, tout à fait, on voit que l'art est... Déjà, la plupart des personnes qu'on interrogeait, pour eux, l'art était directement quelque chose de tabou. On avait l'impression que c'était vraiment... qu'ils n'avaient pas accès à leur raisonnement, qui ne parlait pas souvent d'art, que l'art c'était peut-être réservé aux personnes poétiques, aux artistes, mais alors qu'on a compris que grâce à la section humanité, littérature, philosophie, l'art c'est avant tout la sensibilité et notre vécu, notre personnel.
Oui, c'est aussi compliqué à définir, mais justement ce qu'on entend beaucoup dans ces extraits, c'est que c'est un moyen d'expression. Et donc Philippe, je pense que c'est un premier élément qu'on a pour parler de l'art brut, parce que voilà, on l'a défini souvent comme l'art produit par des personnes qui se situent en dehors du système. Et donc peut-être ce besoin est encore plus fort chez ces personnes-là quand ils produisent de l'art, à ton avis ?
Alors je ne vais pas me lancer dans une définition de l'art brut, ça a fait l'objet du départ du projet d'ailleurs, où pas mal d'artistes se sont réunis. Très vite on a oublié ce mot d'art brut, hein, pour être plus hors norme, parce qu'à travers Debussy, tout ça, effectivement il y a des définitions. Moi ce que je retiens, ce que je peux retenir de toutes les définitions, c'est qu'il y a l'œuvre reconnue peut-être art brut à un moment donné quand on sait que l'artiste n'a pas de notion de travailler son art. C'est-à-dire qu'il n'a pas été en école, on ne lui a pas appris à... Voilà. Et donc, quand son œuvre est reconnue, on peut dire que c'est de l'art brut. Bon, enfin, bon... Il y aura un moment d'ailleurs dans les rendez-vous hors normes, ça va être le 20 mai, donc presque en clôture. On va se retrouver au Pic Vert, on va faire un débat à la Polac, voilà, comme avant. Et on va justement débattre sur ces propos de art brut, art singulier, art différencié, art...
Oui, et donc justement, tu as parlé des rendez-vous hors normes. D'où vient cette envie, cette idée de les proposer ? Je sais que la compagnie éphémère en propose pas mal et a aussi un peu été à l'origine de cet événement.
Ouais, je vais essayer d'être rapide parce que c'est un projet qui a été construit il y a à peu près un an et demi. C'est-à-dire qu'effectivement, la compagnie Création éphémère s'est toujours intéressée de par les artistes avec lesquels on travaille à ces projets d'hors normes, d'art singulier. à travers le théâtre. Et comme on reprenait un travail qui avait été abandonné, qui s'appelle Roméo, qu'on a déjà joué il y a longtemps, en 2016, et qui s'est arrêté pendant la pandémie, hein, au niveau de la tournée, on s'est dit on le reprend. Donc on s'était donné la date du 25 mai, donc ça approche, 23, pour reprendre ce travail. Et puis je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir et de trouver des artistes qui sont un peu concernés pour retravailler une discussion, en tout cas forte qu'on a, et c'est génial, autour de notre propre travail et autour des hors-normes dans notre travail. Aussi bien hors-normes de diffusion que de création, etc. Donc, bah, très rapidement, on s'est retrouvé autour de la table avec 18 artistes au départ. Ça fait un an et demi, on a tenu des réunions mensuelles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je suis en train de regarder d'ailleurs sur mon portable parce que je n'ai pas les chiffres, mais c'est 47 événements, 16 lieux, 288 artistes. Je ne sais pas où on les a trouvés, mais c'est, voilà, c'est prodigieux. Donc pendant effectivement un mois.
Donc oui, c'est en effet peut-être un thème qui intéresse beaucoup en ce moment. Et l'art brut, juste pour donner quelques autres éléments de définition, même si c'est compliqué à définir, se fonde sur une dimension esthétique. Il y a l'idée de créer de nouveaux langages. Et ceci a bien sûr un effet sur les spectateurs et spectatrices de l'art, même de l'art en général. Et justement, les élèves de Jeanne d'Arc ont demandé aussi quels sont les effets qu'une œuvre d'art provoque chez les personnes qui en jouissent. Et donc, on les écoute.
Qu'est-ce qui vous touche le plus dans une œuvre d'art ?
Sa symbolique.
Ce que peut exprimer l'artiste à travers une peinture ou une danse, voilà.
Ça va être un coup de cœur, je pense. Une lumière, une forme artistique qui est un peu particulière ou singulière.
Des fois, ce qui peut être touchant, c'est quand on est un peu choqué, quand on est un peu surpris et que ça nous sort un peu de notre confort ou de ce qu'on a l'habitude de voir et de notre petit cocon ou de ce qui nous entoure. Ça peut faire réfléchir. C'est ce qui surprend et c'est ce qui peut faire du bien ou des fois déstabiliser.
Voilà, donc c'était les réponses sur l'effet de l'art chez les spectateurs et spectatrices. Et il y a une personne qui dit que l'art, justement, peut faire réfléchir et ça peut être aussi choquant. Effectivement, dans l'art brut, il y avait aussi une forme de provocation. Est-ce que tu penses, Philippe, que dans les propositions de hors normes, il y a aussi une forme de provocation ?
Ça dépend, une bonne provocation. Non, je sais pas, j'entends pas vraiment ce terme-là. Au fait, c'est pas Debussy, c'est de Buffet. J'ai fait une connerie. Comme quoi, il y a des auditeurs qui écoutent, quoi, mais on m'envoie un texto, t'es fou. Oui,
du Buffet. J'ai eu le doute aussi, mais.
Non, bien sûr. Non, la provocation, je pense pas qu'on la ressent, en tout cas l'artiste là. Je pense que si l'artiste est dans une démarche de provocation, je pense pas qu'on puisse parler d'œuvre d'art brut. Voilà. Parce qu'il y a toute une réflexion qui se fait avant son œuvre, donc d'après moi, si on peut parler encore un peu des milliers de définitions dans l'art brut, c'est un acte aussi spontané, quoi. C'est pas du tout un acte trop réfléchi. Voilà. Quand l'acte devient trop réfléchi, moi, il rentre dans des normes, forcément. Voilà. Donc tout ce qui peut être un peu hors norme, c'est vraiment, je pense, un acte artistique qui n'est pas trop réfléchi, je pense. Donc la provocation en est une, hein, c'est une réflexion. Donc elle peut effectivement provoquer de par son originalité, de par sa façon d'être à part, d'être ailleurs, d'être à côté.
Et justement, dans les créations de la compagnie éphémère, il y a par exemple les impromptus de Monsieur Alex. Comment vous avez créé justement des spectacles en essayant de vous détacher des normes, par exemple?
Bon, c'est très personnel, ça. Par exemple, les impromptus de Monsieur Alex. Monsieur Alex, c'est Alain Muller, qui a été créateur de la compagnie avec moi en 86. Voilà. Et puis qui est rapidement parti de l'horizon Miavoise. Et on se retrouve pour ces choses-là. Il a créé en cette occasion les impromptus de Monsieur Alex. Donc c'est quelque chose qui a été comme ça. C'est un impromptu qui arrive d'un seul coup pour cet événement-là. Voilà. Bon, après, il faudrait en demander un peu plus parce que je ne peux pas être porte-parole de tous ces artistes. Il faudrait un peu plus le demander à Alain, ce qu'il en pense, quoi. Mais c'est vrai qu'il revient, je sais pas, X années après, sur Mio, alors qu'il fait plus de théâtre depuis 30 ans, voilà, par exemple.
Et donc, il y a aussi une grande variété dans les rendez-vous hors normes.
Oui, alors on a vraiment réuni. Il y aura de la danse, il y aura de la musique, il y aura des conférences. Voilà, justement, aussi au niveau des significations de l'art brut, il y aura énormément de conférences. Il y aura des expos, hein, 5 endroits d'exposition permanente. J'en oublie. De la danse, théâtre, bien sûr, lecture. Aussi bien dans la rue que dans des lieux plus...
Des projections aussi
le cinéma de Mio, oui, ça commence d'ailleurs. Merci au fait, je vous vois là. Enfin, j'avais pas l'impression que c'était commencé, mais ça y est, c'est commencé, quoi. Officiellement, par vos micro-trottoirs. Je trouve ça vraiment très, très, très beau. Voilà, donc voilà, c'est lancé.
Tout à fait. Et donc, une grande variété, ça va des performances aux expositions, on l'a vu. Et cette variété, d'ailleurs, c'est le reflet un peu de ce que l'art, en général. Et justement, pour toucher un peu, pour voir un peu cette variété dans l'art, les Miyavoises et Miyavois ont répondu à la question « Quelle est la dernière œuvre d'art qu'ils ont vue ?» Et on les écoute.
La dernière œuvre d'art que j'ai vue, c'était au Musée du Louvre. J'y suis allé récemment, c'était la Joconde. Voilà.
Alors nous, on est très spectacle de danse, donc ça sera les spectacles de fin d'année de la ville.
Ça dépend ce qu'on attend par œuvre d'art. Parce que si, par exemple, moi je me balade souvent en ville, donc il y a des graffitis, on peut considérer que c'est des œuvres d'art. Ou si c'est aussi des choses comme de la musique. Non, mais je dirais des graffitis en ville, du coup. D'accord.
La dernière, c'est les œuvres d'art les plus accessibles qu'on trouve dans la rue, qui nous sont proposées et qu'on observe sans forcément en plus penser à l'œuvre d'art ou au fait que ce soit un truc artistique, mais c'est où on s'arrête, où on regarde et où ça nous fait passer un moment. Donc ça doit être en baladant quelque part, un graphe sur un mur ou une statue sur une place. Voilà.
Musée Soulages. Mais si on est allé, quand on était à Paris, on est allé au Louvre. J'ai été déçue par la Joconde, je la croyais plus grande.
Alors, en tant qu'Aveyronnais, j'ai fait l'effort d'aller visiter le musée Soulages. Très, très peu sensible. Et voilà. Peut-être que si j'avais eu une explication des œuvres par quelqu'un qui était sensible, là, peut-être que j'aurais compris un peu mieux les œuvres présentées.
Alors, en fait, c'est ce matin même, puisque pour me rendre au travail, j'écoute France Musique.
Un théâtre, c'était La Ferme des Animaux.
Ben, au cinéma,
ouais.
J'ai vu Astérix et Obélix.
Il y a à Millau, où je réside, une galerie d'art dans une rue de mon quartier. Et dans cette galerie d'art, justement, il y a ma voisine qui expose. Et j'ai vu son tableau, qui est un tableau qui mélange à la fois présence de la nature et on va dire, je pense, un certain engagement vis-à-vis du monde actuel, de l'urbanisation actuelle, etc. Et ce tableau m'a beaucoup touché.
Voilà, donc c'était les réponses des Miyavoises et Miyavois sur la dernière œuvre d'art qu'ils ont vue. Et donc voilà, ce qui m'a frappé moi, c'est que ça va du musée du Louvre au graphe, à la musique. Et aussi, il y a quelques personnes qui parlent de l'art dans l'espace public. Et dans Hors Normes aussi, il y a des rendez-vous dans l'espace public. C'était quelque chose d'important pour vous, Philippe ?
Oui, c'est important de le savoir. Mais bon, il y a eu aucune directive de notre part, en tout cas de la compagnie, de dire on va trouver des arts de la rue, des arts, voilà. Mais c'est arrivé tout seul. Voilà. Entre autres, il y a Julie Pichavant qui sera la semaine prochaine, je pense, sur le marché, qui nous vient de Toulouse et c'est une belle histoire parce qu'elle a vu ça à travers la presse, qu'il y avait un rendez-vous en homme, elle a téléphoné et au dernier moment, elle est là, quoi.
Oui,
mais bien sûr. Je pense que dans ce que je viens d'entendre, il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de personnes qui parlaient de rencontrer l'art dans la rue, effectivement. Moi, je regrette beaucoup que... Alors, c'est beau aussi de se dire que l'art, c'est, comme la personne venait de dire, c'est la rencontre avec un tag sur un mur. C'est aussi un coucher de soleil qui sur le beffroi. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais il y a quand même beaucoup moins de propositions actuellement dans la rue. Et ça, beaucoup d'artistes en souffrent. C'est surtout dû qu'à chaque fois maintenant, il faut effectivement avoir une autorisation pour se produire dans la rue. Et donc, ça freine beaucoup la spontanéité. C'est-à-dire que l'art de la rue vient de plus en plus dans maintenant un festival bien construit dans lequel on paye même une entrée pour rentrer dans la ville pour voir des choses. Pour moi, ça s'est décalé complètement, quoi. Et c'est, pour moi, c'est assez honteux. Voilà, je sais que, je le dis à ce micro, ce qui se passera dans la rue, on n'a demandé aucune autorisation. On verra bien ce qui se passe, mais c'est une façon de pouvoir contrer cette chose-là qui, pour moi, a réduit considérablement les projets.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser à la suite de la pandémie. Il y avait pas mal de propositions dans la rue aussi, parce qu'on ne pouvait pas aller dans les théâtres. Et à ce moment-là, je me souviens, il y avait pas mal d'artistes qui disaient ce que tu viens de dire, que voilà, c'est vraiment vital, l'art dans l'espace public. Et dans la réponse aussi, ça m'a touchée, la dernière personne qui parle de sa voisine qui expose dans une galerie d'art. Et donc, il y a pour moi aussi cette notion de proximité, même dans les rendez-vous hors normes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il va y avoir pas des choses, il n'y a pas de zénith de toute façon à Millau, tant mieux. Mais voilà, on va se retrouver chaque fois avec un rapport spectateur de proximité qui est encore une fois pas voulu, c'est tout simplement les artistes qui travaillent comme ça, quoi. Il n'y a pas eu de direction du tout artistique dans le choix de ce qui va se passer pendant un mois.
Et toujours à propos de l'art dans l'espace public, dans le programme, il y a donc les impromptus de Monsieur Alex, dont on a parlé aussi, que vous jouez donc le samedi 29 mai à 11h, d'abord dans les jardins de la mairie, ensuite dans la rue de la Capelle et ensuite dans un lieu secret. Alors comment on fait pour...
ça va être vite découvert dès la semaine prochaine. c'est l'occasion de visiter Millau, puis chercher, voilà, j'ai envie de dire. Ça sera le repère de Monsieur Alex, c'est là où il finit sa journée.
Et du coup, il y aura des indices, par exemple, si on va au jardin de la mairie le matin, on saura où aller.
Exactement.
Eh bien, j'accueille d'ailleurs sur le plateau Clara, Talia et Lisa. Bonjour.
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 Donc vous êtes aussi élève en terminale à Jeanne d'Arc et vous allez nous présenter donc le dernier extrait du micro-trottoir. Qu'est-ce que... Donc voilà, ça va répondre si l'art a des normes. Qu'est-ce que vous avez préparé à propos de ça?
Nous avons pu voir à l'issue de cette expérience que même si nous interrogions bon nombre de personnes au profil très hétéroclite, ils avaient tous quelque chose à apporter et l'expérience était très enrichissante. Et on a pu voir aussi que les personnes qui, au premier abord, se montraient assez réticentes, finissaient toujours par se prêter au jeu et trouver les questions intéressantes. Et les plus humbles, dont en général la première réaction était de craindre le ridicule parce que ils n'ont pas forcément accès à l'art ou ils n'y sont pas forcément intéressés, fournissaient toujours les réponses qui étaient des réponses qui étaient très sincères et très originales. Donc, et surtout sur cette dernière question, où on pouvait voir que les gens étaient assez unanimes à la fois et prônaient une certaine liberté dans l'art.
Oui, tout à fait. On l'écoute et ensuite on continue la discussion.
Pour vous, l'art a-t-il une limite ?
Non, carrément pas. Carrément pas. Non, bah non. Sinon, ça serait pas de l'art, c'est pas drôle.
Ou est-il complètement libre ?
Complètement libre, je pense. Oui, complètement libre.
L'art a-t-il des limites ou des normes ?
Non, justement, je pense que c'est une chose qui permet de s'évader, de pouvoir faire ce qu'on veut avec n'importe quel moyen.
Obéir à des normes, c'est tout l'inverse de l'art. En fait, c'est complètement l'anti-définition. Donc non, au contraire, chacun peut faire de l'art à sa manière et donc... comme tout le monde est différent, à mes yeux, il n'y a aucune limite. Et encore heureux, sinon ce serait triste et on tournerait peut-être en rond, ce qui n'est pas le cas.
Le principe de l'art, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut, comme on veut.
Comme la presse, c'est la liberté et la démocratie.
L'art classique obéit à des normes, mais est-ce encore de l'art? Il y a une forme d'artisanat, il y a une forme d'art, et puis après on peut faire de l'art bourgeois, de reproduction, pour recevoir, on va dire, les dividendes de la commande. Donc c'est plutôt une forme de prestation rémunérée, même si elle met en œuvre des qualités artistiques. Après, oui, l'art est sans doute aussi dans la créativité, l'innovation, Donc non, moi je pense que tout ce qui répond à des normes de manière générale, c'est aliénant. Et l'art est aliéné et standardisé pour répondre à des marchés lorsqu'il est normé.
Aucune norme, aucune limite, liberté totale.
L'art est libre, à mon avis. Et je pense qu'on ne doit pas figer l'art. L'art doit continuer à traverser le temps en ne respectant aucune règle.
Pour moi, on est en France, du coup, il y a la liberté d'expression qui existe. Du coup, l'art a le droit et se doit d'être libre.
À mon avis, il reste libre suivant les limites que chaque artiste se fixe. Après, pour moi, il n'y a pas de limite, à part, bien sûr, celle de la société. Mais sinon, voilà.
J'ai envie de dire, malgré tout, que c'est un art qui doit être libre. Voilà, c'est sûr que parfois, ça peut choquer, ça peut heurter, ça peut blesser. Pour autant, pourquoi y mettre des limites ?
Ben, un peu de limites, mais on peut être libre aussi à faire ce qu'on veut. Il y a quand même des limites à respecter.
Ah, très très bonne question. Je pense que l'art est avant tout un vecteur de liberté intellectuelle et de liberté de pensée. Donc il doit être libre pour exister pleinement. En revanche, je pense que des codes, des canons, comme on dit, vont enrichir l'art. Après, ça c'est au niveau de la forme. Au niveau du fond, je pense qu'il faut pouvoir aussi exprimer toutes les idées au travers de l'art.
On peut dénoncer certains problèmes moraux, mais il faut le faire d'une façon suffisamment raisonnée, sans être trop vulgaire ou trop violent.
L'art, c'est sous toutes ses formes, et je pense que ce festival, du coup, va bien nous le prouver. Bon, mais merci beaucoup, et nous attendons au festival hors normes.
Donc voilà, c'était les micro-trottoirs des Miavoises et Miavois. La parole a été collectée par les élèves de Jeanne d'Arc, donc vous avez peut-être un dernier mot à dire sur cette expérience ?
En effet, comme on vient de l'entendre, on peut observer qu'il y a autant de définitions de l'art que d'individus, ne permettant pas donc d'enfermer l'art dans une case, mais nous incitant à toutes les considérer et à les accepter.
Et finalement, je vais simplement rajouter que l'art doit dépasser ses propres limites jusqu'à atteindre la subversivité nécessaire pour nous rappeler que la liberté dont il découle n'est jamais véritablement acquise, requérant ainsi une vigilance tout à fait constante. Et pour conclure, nous dirons que l'art est finalement une question de diversité, de nuance et d'altérité sans lesquelles il n'est rien et il est purement hors norme.
Merci beaucoup. Et donc, j'ai envie de vous poser à vous aussi la question sur les limites de l'art. Ça m'a beaucoup fait réfléchir la personne qui dit que, en fait, ça a un rapport avec la démocratie comme la liberté de la presse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que l'art n'a en effet pas de limite, du moment que ça ne porte peut-être pas atteinte à autrui. Mais l'art se doit d'être dénonciateur dans certaines situations et l'artiste se doit de donner sa propre vision du monde, d'une société ou autre.
Tout à fait, moi je suis totalement d'accord avec le fait que pour moi l'art ne doit pas avoir de limites et bien au contraire doit aborder tous les sujets, ne doit pas en fait avoir de normes dans autant les artistes dans l'inspiration que dans la création. Et pour moi, justement, c'est ça qui fait que l'art est si riche, c'est qu'il n'a pas de limite.
Et pour toi, Philippe
Bravo. Alors, de ce passage-là à la réalité, c'est vrai qu'on a entendu quand même... La réalité, c'est aussi la consommation de l'art, c'est-à-dire le comment on programme un programme dans un théâtre, par exemple. C'est-à-dire... tout ça c'est financier, c'est-à-dire que ça doit faire plaisir à un moment donné à des spectateurs, donc là on s'éloigne beaucoup, 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 donc les artistes on combat toujours pour résister à cette pression commerciale de l'art.
Oui, et d'ailleurs la compagnie éphémère a aussi un lieu où vous produisez la fabrique, où il va y avoir aussi des rendez-vous hors normes, et c'est un lieu qui résiste un peu, on peut dire.
J'espère bien, les murs sont toujours là.
Et donc Clara, Talia et Lisa, vous avez aussi traité de ces questions dans votre programme, donc dans la section Humanité, Littérature et Philosophie, les questions de l'art et de ses limites.
Nous les avons traitées tout au cours de l'année, oui.
Et pour ces rendez-vous hors normes, vous avez prévu autre chose ?
Alors, nous avions prévu de nous rendre à l'inauguration, car nous y avons été conviés, et je pense que ça serait une bonne démarche pour continuer dans le projet que nous avons réalisé.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois, et puis aussi à l'autre groupe qui était là tout à l'heure. Et
Philippe, est-ce que tu veux ajouter autre chose par rapport au rendez-vous hors normes?
Oh, j'ai tellement de choses à dire que je préfère me taire. Mais non, mais voilà, ce qui est arrivé, c'est quand même incroyable, quoi. Je ne sais plus combien tout à l'heure de manifestations qu'il y aura. Puis bon, j'étais surpris de vous voir, c'est génial, quoi. C'est vous qui commencez, donc. Hein. L'inauguration, oui, c'est bien, tu en as parlé. C'est le rendez-vous, c'est ce samedi, donc à la médiathèque. Pour dire aussi qu'il y avait, c'est peut-être important de dire aussi qu'il y a deux endroits à Millau qui ont joué le jeu, hein, c'est le musée de Millau et la médiathèque, voilà. Et donc à la médiathèque, effectivement, il y aura cette inauguration, avec un petit spectacle après, d'ailleurs une lecture. Mais voilà, c'est peut-être bon, je pense que le Radio Larzac va largement diffuser tout ce qui se passe. Mais en ce moment, ce matin, il faut savoir qu'il y a déjà eu des scolaires qui ont vu un travail qui s'appelle « Il était une fois à la fabrique », là, cet après-midi encore. Voilà, ça va pas arrêter.
Tout à fait. Donc, l'inauguration, c'est ce samedi.
Ah, oui, juste une petite chose aussi. Il y a, parce que j'y pense, là, je dis « Ouais, il faut que j'aille voir quelqu'un, là ». Il y a Tito González, qui est un réalisateur cinéma, qui arrive là tout à l'heure à Montpellier, que je vais chercher, et qui sera là ce soir pour la projection au cinéma.
Oui, tout à fait.
Et les cinémas aussi, bon, j'en ai oublié, hein, il y a le Vieux Moulin, il y a le cinéma de Millau, etc., qui sont partenaires de ces projets. Et donc ce soir, il y a trois courts-métrages qui ont été réalisés par Tito González sur une vie d'Oedipe un peu moderne, comme ça. Et ça a commencé, la petite histoire a commencé sur le plateau du Larzac pour aller après en Pologne, à Cracovie, pour le deuxième épisode. Et le troisième épisode, il s'est fait sur ce qu'on appelle la muraille de Chine à Clermont-Ferrand, qui est un bloc d'HLM, d'ailleurs, qui va bientôt être détruit. Voilà.
Oui,
donc ce soir, 20h30, ouais, au cinéma de Millau.
Et il y aura aussi Anaïs, un film de Philippe Tessière, toujours au cinéma, proposé par les Arts Buissonniers. Et pour rappeler, donc, l'inauguration, c'est ce samedi à 19h30 à la Mesa, suivi à 20h30 par une lecture. Et donc, je vous remercie beaucoup. Donc, merci à Clara, Talia, Lisa, Marie et Aïlia, bien sûr. Donc, élève en terminale de la section Humanité, Littérature et Philosophie au lycée Jeanne d'Arc. Merci beaucoup à Philippe Flao, donc de la compagnie Éphémère. Et je vous rappelle aussi que tous les rendez-vous hors normes, donc, qui se passent à partir de ce jeudi 20 avril jusqu'à tout le mois de mai, sont disponibles sur millau.fr pour voir tout le programme. Et un écho à la thématique, donc, de l'art brut, de la folie, on écoute une chanson italienne que je vous propose. C'est Fabrizio De André, c'est un auteur-compositeur inclassable, lui aussi, pour ses positions politiques anarchistes, qui lui ont d'ailleurs valu la censure sur certaines de ses chansons, mais aussi pour l'attention qu'il portait aux exclus, aux personnes qui vivaient en marge de la société. Et cette chanson est justement consacrée à un malade psychiatrique, ça s'appelle Il Matto, et c'est tout de suite sur Radio Larzac.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovski malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri Eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
De retour dans l'actu sur un plateau, c'était Fabrizio De André avec la chanson Il Matto, ce qui m'offre une parfaite transition avec le contenu qui suit, puisque j'ai pu interviewer il y a quelques jours Pepe Dell'Acqua, un psychiatre italien, ancien directeur du département de santé mentale de Trieste. C'est une ville de nord-est de l'Italie où s'est opérée une véritable transformation de la psychiatrie grâce notamment à Franco Basaglia, qui était un psychiatre qui a œuvré beaucoup pour la reconnaissance des malades en tant que citoyens et non pas comme des personnes justement internées dans des asiles. Son œuvre a amené à la promulgation de la loi 180 de 1978 qui a fait de l'Italie le premier pays au monde à fermer les asiles psychiatriques où étaient détenues les personnes concernées par des troubles psychiatriques, et ce à travers aussi des ateliers d'art et de théâtre. Voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité interviewer cette personne à l'occasion des rendez-vous hors normes qui se passent à Millau, donc du 20 avril à partir d'aujourd'hui jusqu'à tout le mois de mai. Et voilà, ça faisait vraiment écho à cette thématique. Et donc, on écoute tout de suite Pepe Dell'Acqua, doublé par Kevin. Pour commencer, comment avez-vous rencontré Basaglia et commencé à travailler avec lui?
L'ho conosciuto quando ero studente universitario a Napoli, alla facoltà di medicina.
Je l'ai rencontré quand j'étais étudiant à la faculté de médecine de Naples. J'étais un bon élève, mais je participais au mouvement étudiant. Et dans les assemblées, il est arrivé plusieurs fois que mes collègues plus âgés ou les internes nous parlent de la médecine critique, du rapport entre la médecine et le pouvoir. Et à ce moment-là, en 1967 et 1968, Basaglia était à Gorizia, dans le nord de l'Italie. J'ai alors découvert les asiles psychiatriques, des lieux écartés et éloignés, dont on connaissait même pas l'existence. Les asiles étaient les lieux où cette idée de la médecine comme instrument de contrôle et de pouvoir se concrétisait de manière claire.
Cominciato a sapere che ci stavano i manicomi, cosa che non sapevo neanche prima.
Certains de mes camarades et moi, nous avons eu envie d'aller écrire notre mémoire dans la clinique des maladies nerveuses et mentales, où se trouvait l'unité de psychiatrie également. Et pendant cette expérience, j'ai vu de l'intérieur ce que ça voulait dire. On parlait aussi de Basaglia et de son expérience à Gorizia. Mais dans la clinique où j'étais, il était un espèce de diable, dont on ne pouvait pas parler. Mais nous, on a eu l'envie d'aller lui rendre visite, et je suis allé le voir à Parma, où il était. Et à l'époque, il avait déjà le projet d'aller travailler à Trieste et il cherchait à recruter des jeunes, non contaminés par la psychiatrie traditionnelle. Il était persuadé qu'on devait commencer à construire une nouvelle façon d'être avec les gens. Et c'est là que l'aventure a commencé.
À Parma, à trovarlo. Et lì Basaglia aveva già in mente il progetto, di andare a lavorare a Trieste. Cercava di reclutare dei giovani come me, dei giovani non contaminati dalla psichiatria, e che dovevamo costruire un nuovo modo di stare con le persone. Da lì è cominciata l'avventura.
On a appelé sa démarche de psychiatrie ouverte une révolution. Pourquoi d'après vous?
Siamo che nessuno di noi all'epoca pensava, forse neanche Basaglia, che stesse facendo la rivoluzione.
Disons que personne à l'époque, peut-être même pas Basaglia, pensait être en train de faire une révolution. C'est après coup qu'on l'a appelé ainsi, et peut-être même de façon inappropriée. Mais c'était en réalité une révolution des consciences, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que les personnes pensent différemment. L'idée d'abolir le choc électrique ou la contention physique n'était pas l'objectif principal. Le but principal, c'était comment réussir à vivre et à faire vivre de manière plus digne les personnes, avec leurs besoins et leurs désirs.
vivere in maniera più dignitosa le persone, dunque i bisogni e i desideri. Ecco, lì forse c'entra l'arte, perché nel 73 i bisogni sono state le cooperative, tutte le forme.
E c'è là che l'art entra en jeu, parce qu'en 1973, le besoin, c'était de créer des coopératives ou d'autres formes associatives qui permettraient aux personnes de gérer leur vie en dehors de l'hôpital psychiatrique, parce que c'était ça l'objectif. Et dans un deuxième temps, Basaglia a convoqué les artistes et étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Venise, qui sont venus pour travailler dans l'asile vide. À ce moment-là, l'expérience de Marco Cavallo est née.
Marco Cavallo est le nom donné à une énorme sculpture en bois et papier mâché en forme de cheval, qui a été réalisée en collaboration avec les malades psychiatriques. Il est bleu, une couleur choisie par les patients, et fait 4 mètres de haut. Symboliquement, sa taille si importante est faite pour contenir tous les vœux et les rêves des patients et transmettre à l'extérieur cette humanité méconnue.
Ecco, Marco Cavallo è stato la, diciamo, l'apice del lavoro laboratoriale, e questo laboratorio del cavallo era un laboratorio partecipato da centinaia di persone.
Voilà, Marco Cavallo a été à l'apogée du travail des ateliers artistiques, et l'atelier pour construire le cheval était fréquenté par des centaines de personnes. Pendant qu'on construisait le cheval, on faisait plein de choses. On écrivait des poèmes, des contes, on montait des petites pièces de théâtre. Le but, c'était que cet énorme cheval sorte de l'hôpital. Et cela a été le cas. Pour moi, c'est le résumé de ce qu'on a fait avec les artistes et avec nos amis. Cela représente notre idée des ateliers. Les ateliers ne sont pas des lieux de divertissement. Ils doivent avoir un début et une fin. Des ateliers qui ne se terminent pas, ne produisent rien, à part du divertissement.
Ils doivent commencer et doivent anche finir. Un laboratoire qui ne finit pas après 2-3 mois est quelque chose qui signifie que ça ne produce rien, c'est un entretenement.
Et justement, comment change la vie d'un patient ou une patiente à travers l'art?
Lei deve pensare che questo laboratorio, cioè un reparto vuoto, si riempiva ogni giorno.
Il faut considérer que ces ateliers se passaient dans un asile vide, qui se remplissait tous les jours. Entre le matin et l'après-midi, 150 jusqu'à 200 personnes y passaient. Mais cela n'était pas de la production artistique, c'était une tentative de notre part de prendre conscience qu'il se passait quelque chose. Que la contrainte temporelle de l'asile se brisait. Que les personnes sortaient de l'asile alors qu'on n'en sortait pas d'habitude. Qu'on était ensemble, nombreux et nombreuses, qu'on pensait à sortir de là. Bref, c'était des moments collectifs de grande participation.
Vous dites justement que les malades passaient ainsi de la dimension du destin à celle de la possibilité.
Diciamo che è quello che comincia a nascere col laboratorio, no? Con Marco Cavallo.
Oui, c'est ce qui commence à se produire à travers les ateliers, à travers Marco Cavallo. Parce que ce cheval a fait naître des désirs, l'amour, les voyages, le fait d'aller voir sa famille en Australie par exemple. Et ceci veut dire que les personnes, de manière inconsciente, commencent à vivre dans une dimension de la possibilité. Le désir n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se produire, mais cette image du passage du destin à la possibilité devient très claire quand en Italie, la loi 180 de 1978 est adoptée.
È molto chiaro quando in Italia viene fatta la legge, insomma, no, del 78, in cui i malati di mente diventano cittadini.
À travers cette loi, les malades deviennent des citoyens. Et en tant que citoyens, ils ont des droits civiques, le droit à la parentalité, au logement, à l'emploi. Et ces droits doivent se concrétiser, et ce sont des possibilités qui commencent à émerger.
Justement, la loi de 1978 a fait de l'Italie le premier pays au monde à éliminer les asiles. Dans les autres pays européens, est-ce qu'on a remarqué l'influence de cette loi?
Un peu in tutto il mondo si è sentita. Che poi si siano chiusi gli ospedali psichiatrici, questo non è accaduto.
Cette influence, on l'a ressentie dans le monde entier, mais les hôpitaux psychiatriques n'ont pas pour autant été fermés. Si l'on pense à la France, par exemple, les hôpitaux psychiatriques existent encore, alors qu'on a fait beaucoup de choses avec les Français. Au Royaume-Uni, il y a eu une réduction progressive des asiles. Même s'il en reste encore des hôpitaux avec des unités pour personnes les plus dangereuses, nous avons éliminé cette notion, puisque dans la pratique, il est possible de faire en sorte que tout le monde cohabite, ou en tout cas, c'était le pari. Ce n'était pas tellement la fermeture des asiles ou la loi 180 qui a changé les choses, mais plutôt l'idée, la philosophie qu'il y a derrière.
La manicomio, la legge 180, ma il pensiero è un pensiero tra virgolette, ecco, devastante, quello di Franco Basaglia.
C'est une idée dévastatrice, celle de Franco Basaglia, qui est allé à l'encontre des cultures psychiatriques et de leur rigidité. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a fait basculer les certitudes des psychiatries basées sur des connaissances scientifiques absolument fragiles. On a enfin commencé à accepter l'incertitude, à vivre la rencontre avec l'autre. L'autre, ce n'est pas le schizophrène, l'autre, c'est Michel, Jean, qui vit sa vie avec ses spécificités.
L'autre non est le schizophrénico, l'autre est Michel et Giovanni, qui vivent quella vita lì, con quelle cose lì.
Et aujourd'hui, est-ce que la loi 180 est encore appliquée et respectée?
Le dico una cosa paradossale. La legge 180 est encore lì.
Je vais vous raconter un paradoxe. La loi 180 est encore là, et on dit que c'est la loi qui a été le plus largement appliquée en Italie. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où elle a intégré des personnes avec des troubles psychiatriques, des malades mentaux, les exclus, les invisibles dans la Constitution, en tant que sujet de droit. La loi 180, c'est surtout cela. La fermeture des asiles n'en est qu'une conséquence. Mais du coup, cela veut dire que les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent revendiquer ces droits. Mais le fait qu'on puisse jouir de ces droits partout, qu'il y ait des services à même de le faire, n'est pas un acquis. Aujourd'hui, il y a une fragmentation très visible en Italie. Il y a 20 régions, et on pourrait presque dire 20 systèmes de santé différents. C'est vrai qu'il y a de bonnes initiatives un peu partout, mais pas de manière systémique, ni totale.
Allora, la frammentazione che c'è adesso è molto evidente. In Italia ci sono 20 regioni, si potrebbe dire con 20 sistemi sanitari differenti. È vero che delle buone cose accadono un po' dovunque, ma non in maniera né completa né totale.
Ora, la psichiatria che ridona alle persone gli statuti di sujet, dei cittadini. C'est celle qui est née à Trieste et qui fait beaucoup avancer les choses en Italie. La psychiatrie des objets, des unités fermées, des diagnostics est en train de revenir, parce que c'est cette psychiatrie-là qui est dominante dans le monde.
Et alors, pour conclure, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la psychiatrie ?
Io sì. Fare il mestiere che ho fatto per più di mezzo secolo significava essere ottimisti in partenza.
Moi, oui. Faire le métier que j'ai exercé pendant plus d'un demi-siècle voulait dire être optimiste au départ et nourrir sans cesse son optimisme. On fait des paris qu'au départ on croit toujours perdant. Cette personne ne va jamais guérir. Qui sait que va devenir cette autre personne? Et puis après, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et alors on ne peut qu'être optimiste et toujours investir. Je pense que ce qui s'est produit ne va pas s'arrêter. Et bien sûr, il faut toujours investir sur la question des droits des personnes, de leur subjectivation, et ceci est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations de personnes atteintes de troubles mentaux qui parlent d'elles et qui défendent leurs droits.
Et questo sta accadendo, ecco, adesso sono tanti le associazioni di persone con disturbo mentale che parlano di loro stesse, ecco, che difendono i loro diritti.
C'était donc l'interview de Pepe Dell'Acqua, psychiatre et ancien directeur du département de santé mentale de Trieste, qui a œuvré pour la psychiatrie ouverte avec Franco Basaglia. Je le remercie pour sa disponibilité et je remercie aussi Kevin pour le doublage. Et entre-temps, c'est Souria qui m'a rejointe en studio pour sa chronique. Bonjour Souria.
Coucou.
Alors cette chronique, bah, on va tout de suite la commencer avec une petite musique. Alors, ce tapis, cette musique, ça nous vient de quel film ?
Alors, c'est la musique de Kid Cudi, Ney Bisso, qui fait partie dans le film Intergalactique. J'en ai encore jamais parlé, alors qu'il y a quand même des bons films d'animation. Et justement, le film Intergalactique en fait partie, en tout cas pour ma part. Intergalactique a été réalisé par Fletcher Moulz, mais c'est un projet du rappeur Kid Cudi pour la sortie de son album, qui d'ailleurs porte le même nom que le film. Il est sorti en septembre 2022, donc il est tout frais, tout jeune. Pour faire très court, Intergalactique parle d'un jeune artiste, Jabari, qui essaie de trouver un équilibre entre amour et succès, succès dans son art. C'est son aménagement dans l'appartement de ses rêves à New York qui lui permet de faire la connaissance de sa nouvelle voisine, la photographe Meadow. Donc on remarque que le scénario est assez cliché. Il habite à New York, il rencontre une fille, mais son ex arrive dans l'histoire, etc., etc. Mais pour autant, on a quand même envie de continuer à regarder grâce à l'animation qui est vraiment incroyable et aussi les personnages qui sont attachants. Je vais maintenant m'appuyer sur un personnage un peu particulier du film. Jabari, il n'est jamais seul, il est accompagné de Mr. Rager. Mais qui est Mr. Rager ? Alors de base, c'est le titre d'un des albums de Kid Cudi, Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager, en 2010. Mais dans le film, c'est un personnage créé par Jabari, c'est sa signature en quelque sorte. Jabari fait des graves de Mr. Rager dans les rues de New York et ça arrive que Mr. Rager prenne vie dans l'imagination de Jabari. L'univers de ce film est, on va dire, assez trippante. C'est pour moi le mot qui lui colle le mieux. Pourquoi ? Parce que c'est très coloré et à des moments, on est littéralement dans l'espace. Par exemple, il y a des séquences particulièrement mémorables où on voit Jabari arpenter les rues de New York à vélo. Petit à petit, la ville s'estompe en arrière-plan et alors il commence à pédaler dans l'espace. Très beau ce moment. Parce que, quelque chose que j'ai oublié de préciser, Jabari fait toujours du vélo dans New York, avec son vélo qui donne des plans cinématographiques assez spéciaux et vraiment beaux, comme celui que je viens d'évoquer. Les dessins de l'animation varient aussi beaucoup. Il y a différents styles de dessins. Par exemple, dans Le Cauchemar de Jabari, c'est en noir et blanc, ou quand son ami Downtown raconte une de ses aventures, c'est plus en style cartoon. Il y a aussi les conversations entre amis qui apportent beaucoup de joie, qui animent la narration. Il y a un grand développement de personnages et un drame réaliste, mélangé à des situations comiques mémorables. L'animation et la réalisation aident beaucoup à transmettre un style de couleur qui vous fait immerger encore plus dans l'histoire, sans parler des choix de musique qui vous emportent encore plus et qui collent super bien aux séquences du film. On a très clairement envie de rejoindre les personnages dans leur univers coloré, chaleureux, chill et stylé, qui donne envie de se prendre un appart à New York, d'arpenter les rues à vélo et d'admirer les graphes à tous les coins de rue. En conclusion, malgré le scénario un peu classique, c'est un film qui fait du bien, qui apporte de l'apaisement surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. L'univers coloré et le côté esthétique du film plaît à certains et pas à d'autres. En tout cas, moi j'ai adoré et je le conseille à fond à ceux qui aiment découvrir des petites pépites. Intergalactique vous transporte dans un univers hors du commun.
Merci beaucoup, Souria.
Merci, Sophia.
Bah, on te retrouve bientôt pour une prochaine chronique avant que tu partes à New York à vélo et c'est dans un appartement.
Faire des graphes.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et ce sont les notes d'Incendie, un morceau du groupe Inuit, qui marque la fin de notre émission. Ce morceau a été choisi par Marie-Vonne, la présidente de Radio Larzac, qui a voulu, à travers cette musique, rendre hommage à Karine Orcel, ancienne élue à la culture de la ville de Millau. Et je vais vous lire un texte que Marie-Vonne a écrit en son hommage. Pour vous, Karine, pour vos proches aussi, nous associons nos cordiaux souvenirs pour souligner vos richesses, vos talents partagés et vos actions. L'équipe salariée, le conseil d'administration de Radio Larzac vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait, pour l'intérêt dont vous avez fait part pour le développement de la radio, pour l'efficacité en toute bienveillance de votre soutien. Merci Karine. Dans le milieu associatif, vous étiez là avec une écoute attentive pour répondre au plus près des besoins. Votre présence encourageante par vos qualités humaines et perspicaces avait le pouvoir de dynamiser les équipes en plus du reste. Vraiment, merci Karine. Dans notre humanité associée à la vôtre, nous nous souvenons d'une personne présente et intelligente, générant sa gentillesse et ses compétences pour faire au mieux avec le réel possible. Au nom de l'ensemble de la radio, puisqu'elle vit ta présence passée, adieu Karine. Au-delà de mots, nous vous dédions donc Incendie de la formation Inuit. Et sur ce note, donc, j'aimerais conclure en remerciant tous les invités d'aujourd'hui, donc Philippe Flao de la compagnie Éphémère pour les rendez-vous hors normes qui commencent donc ce 20 avril et qui se conclut le 26 mai. Merci aussi aux élèves de Terminal au lycée Jeanne d'Arc de Millau pour leur micro-trottoir. Merci à Souria pour sa chronique à nouveau. Merci à Nico et Kevin qui étaient à la technique aujourd'hui. Mais surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Cette émission est rediffusée vendredi à 19h et très très bonne écoute à vous sur Radio Larzac.